Vous écoutez RTL.
Mais Paris, mais Paris.
8h24, bonjour Philippe Labreau.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Vous êtes écrivain, journaliste. Vous publiez, enfin vous republiez, ce n'est qu'un début, aux éditions Lattès. C'est un document, hein, en fait, sur les événements de mai 68 que vous aviez publié, vous, en juillet 68. Alors justement, j'aimerais qu'on se replonge dans ce printemps. Vous aviez conscience de vivre des événements qui allaient bouleverser la France en tant que journaliste, en tant que reporter?
On ne peut pas, pendant l'événement, penser à ses conséquences. On ne peut pas. Culturel, sociétal, tout ce qui fait que mai 68 est un moment important dans l'histoire de la France. Néanmoins, il était clair qu'il se passait quelque chose d'énorme, de renversant, et que l'autorité, d'une manière générale, allait être remise en cause. L'était déjà. Et le serait ensuite.
Il s'agit d'une réédition, j'ai envie de vous dire, exacte. C'est-à-dire que vous n'avez rien touché au texte original. 50 ans plus tard, qu'auriez-vous eu envie de changer éventuellement dans ce dossier? Vous ne vouliez vraiment pas y toucher? Vous pensez que ça devait être publié tel quel?
Non, il vaut mieux publier tel quel, parce que c'est intéressant, c'est bourré d'inédits. Il y a l'interview de François Truffaut qui raconte sa vision de mai 68. Il y a un texte de 20 pages d'un inconnu clandestin que j'enregistrais dans une cave parce qu'il était poursuivi par la police, et qui s'appelait Serge. Et 3 ans plus tard, j'ai découvert que c'est Serge Julie. Donc c'est bourré de choses, je crois qu'il ne faut pas y toucher. Alors j'ai fait une préface de 2018 pour un peu donner ma vision 50 ans après, mais pour le reste, je crois qu'il faut le...
Mais c'est ce sur quoi on a aussi envie de vous interroger ce matin, Philippe Labreau a vécu ces événements de l'intérieur dans les palpitations des barricades, comme journaliste. Après, il en tire une première synthèse, on pourrait dire à chaud, et aujourd'hui, il a un recul. Alors, vous savez, c'est la question qu'on se pose tous, c'est est-ce que ce mouvement a vraiment changé notre vie, a changé la vie des Français?
Bien évidemment. D'abord, vous avez raison d'utiliser, Yves, le mot « mouvement ». C'est, pour moi, c'est plus qu'une révolution, c'est un mouvement, c'est un grand moment, c'est un raz-de-marée qui change le rapport à l'autorité, le rapport avec les femmes, le vocabulaire, le comportement artistique. La plupart des artistes, chanteurs, écrivains et tout, et cinéastes sont nés de là. La quand même grande transformation au plan syndical, au plan des gains qu'ont fait les ouvriers et tous ceux qui sont passés par le Grenelle, parce qu'il y a eu Grenelle aussi. Et puis aussi, la fin du gaullisme, c'est terminé. 2 ans plus tard, il s'en va.
Alors vous retranscrivez, c'est extrêmement vivant, hein, parce qu'en fait, on a l'impression de feuilleter les pages de notre histoire et d'y être quasiment acteur grâce à vous, mais vous retranscrivez un moment assez mémorable, un parmi d'autres, qui s'est déroulé sur l'antenne d'RTL en direct. Une négociation sur la radio entre Alain Gesmar, l'un des leaders de mai 68 du syndicat national de l'enseignement supérieur, d'ailleurs il prend la parole dans votre livre, et le vice-recteur d'Académie Chalin. Négociation autour de la reprise des cours à la Sorbonne. Ça veut dire qu'on pouvait avoir des négociations entre le recteur et l'un des leaders étudiants en direct à la radio sur RTL?
Sur RTL. RTL et Europe, hein, il faut le dire aussi.
Bien sûr.
Mais ces deux radios privées ont joué un rôle qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui. Elles étaient en fait le Twitter, le réseau social, le Facebook d'aujourd'hui, entre les étudiants, entre eux, parce qu'à la limite... Les radios annonçaient presque l'endroit où allait se passer une barricade. Et d'ailleurs, elles ont été remises en cause par le pouvoir, par le gouvernement. Mais effectivement, on se servait de la radio pour négocier côté étudiant, côté professeur.
Chaque camp, si je puis dire, ils étaient multiples d'une certaine façon. Utilisaient la radio comme mode de communication. On rappelle par ailleurs qu'à ce moment-là, le service public était soit perturbé, soit en grève, soit sous la main tout simplement du gouvernement.
Avec verrouillé.
Une certaine autorité.
Verrouillé.
On se souvient de ces affiches où on voyait l'ORTF bâillonner.
Ouais.
L'accès à l'information était, on l'imagine, bien plus compliqué qu'aujourd'hui. Mais comment les manifestants eux-mêmes jugeaient-ils les médias? Parce que moi, ce qui me frappe, c'est de voir à quel point, apparemment, on vous parle facilement, aisément, simplement, on aurait envie de dire en liberté.
Ben, ils étaient très contents que la radio existe, parce que ça leur servait, ça leur était utile. Et ils se rendaient compte à quel point, effectivement, il y avait une différence entre la radio et la télé publique. Puis rappelez-vous qu'à la télé, Gesmar, Sauvageau et Cohn-Bendit étaient interdits d'antenne. Nous étions producteurs d'une émission avec Henri Turenne, on l'a arrêté. Tous les grands producteurs, toutes les émissions ont arrêté. Complètement, parce qu'on ne pouvait pas s'exprimer. Donc, ces deux médias ont joué un rôle capital et les étudiants étaient ravis de s'en servir et d'établir ce lien, car c'était un lien.
Alors, il y a des moments tout à fait étonnants que vous nous faites partager. Vous couvrez cela pour François, hein, vous venez de parcourir la rue Gay-Lussac. Ouais. Et puis vous nous dites, bah voilà, tout près de moi, clope au bec, crayon et bloc à la main, Lucien Bodard, grand écrivain romancier revenu de tout, d'Indochine, hein, comme d'Algérie, puisqu'il avait couvert avec infiniment de talent ces conflits. Il grommelle en regardant Cohn-Bendit s'agitant dans une bousculade digne des fans d'une star de rock. J'ai jamais vu un type comme ça. Pour épater Lucien Bodard, il fallait y arriver.
Hein. J'étais épaté aussi, j'étais à côté de Lucien, sinon j'aurais pas pu rapporter cette anecdote. Effectivement, Daniel Cohn-Bendit diffusait une électricité, un magnétisme absolument unique. Et un humour. Parce que en même temps, c'était sérieux, hein, c'était quand même un grand combat pour lui, il rigolait intérieurement. Et même il rigolait tout court, puisqu'il y a cette légendaire photo où il rit au visage d'un CRS. Et donc effectivement, pour des professionnels que nous étions déjà, Baudard beaucoup plus que moi, c'était un homme unique. Et je considère qu'il continue d'être un personnage tout à fait exceptionnel.
Vous avez voulu évoquer dans la fin de votre préface, alors qu'elle est originale et était le texte que vous nous confiez, texte d'aujourd'hui, de 2018, vous nous dites un dernier mot, il est interdit d'interdire, disait-il en mai 68. Que voulez-vous nous faire remarquer
ben, qu'aujourd'hui, il est autorisé d'interdire. On n'arrête pas d'interdire. Le politiquement, le culturellement correct est tel que c'est un retournement invraisemblable, Yves Calvi, si vous réfléchissez. D'une certaine manière, ceux qui, il y a 50 ans, enfin une partie de ceux qui, il y a 50 ans, demandaient toute liberté d'expression, aujourd'hui veulent interdire un certain nombre de choses. En particulier, Carmen de mourir.
Que reste-t-il de mai 68, 50 ans après Philippe Labreau?
Tout, c'est-à-dire que la société a changé, donc il reste la société actuelle. D'une certaine manière, on peut dire que Giscard d'Estaing n'aurait pas fait les réformes qu'il a faites après mai 68, et de la même manière aujourd'hui, pour moi, la fin du grand mouvement mai 68, la terminaison, les résultats, c'est Macron.
Alors, Macron est un héritier de 68, expliquez-nous ça.
Pas lui personnellement. Le mouvement que Macron a créé, fabriqué, n'est que le prolongement de ce désir violent de changement qui secoue la société française tous les 50 ans.
Des manifs dans la rue à La République en marche. Merci beaucoup Philippe Labreau. Je rappelle que Ce n'est qu'un début, votre livre, paru aux éditions Jean-Claude Lattès, mai 68, tel qu'on le racontait à l'époque par Philippe Labreau, puis avec cette préface originale. Merci d'être venu nous voir ce matin.
Je vous en prie.
Très bonne journée à vous Philippe Labreau.
À vous aussi Yves, merci.